Et ça, c'est 80% de l'énergie consommée dans notre pays. L'électricité, elle, ne représente que 18% du mix énergétique. Et donc, il faut faire attention de ne pas confondre mix énergétique, qui est le total, et mix électrique. Et donc, en réalité, lorsqu'on veut atteindre la neutralité carbone, la priorité, c'est d'éradiquer les 80% d'hydrocarbures.
Dans Let's Talk, la FEB vous fixe rendez-vous avec une figure clé du monde entrepreneurial en Belgique. Qui se cache derrière la femme ou l'homme chef d'entreprise ? Quel est le moteur qui l'a ou le pousse à faire tourner son activité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ? Est-ce la passion des chiffres, les gènes ou bien l'ambition ? Let's Talk vous propose de découvrir une personnalité du monde du business, devant et derrière les coulisses. À écouter chaque dernier jeudi du mois.
Notre invité est Grégoire Dallemagne est depuis septembre 2011 CEO de Luminus, où il a impulsé une transformation stratégique pour s'adapter aux enjeux de la transition énergétique. Luminus, qui fait partie du groupe EDF, occupe plus de 2300 personnes, est producteur et fournisseur d'énergie et de services énergétiques. Notre invité est par ailleurs, depuis juin 2021, président de la FEBEC, la Fédération belge des entreprises électriques et gazières. Entre explosion des prix encore aggravée par la guerre en Ukraine et nouveaux défis liés à l'urgence climatique et à la poursuite de la transformation du marché de l'énergie, le secteur est pour le moins sous pression. C'est pourtant à un Grégoire Dallemagne confiant que nous avons affaire, parfaitement conscient des défis et difficultés, mais convaincu que l'on peut faire face, à condition de faire sienne deux grandes recommandations pour le futur. Sobriété énergétique et électrification. S'il est incollable sur toutes les questions touchant de près ou de loin l'énergie, le technicien Grégoire Dallemagne est aussi un amoureux de la nature. De toute façon, pour lui, la lutte contre le réchauffement climatique est indissociable de la protection de la biodiversité. Monsieur Dallemagne, bonjour.
Bonjour.
Les prix de l'énergie s'enflamment. Ces prix sont pour partie fixés sur un marché à terme, à 12, 24 mois, voire plus. Êtes-vous déjà en mesure de nous dire comment ils vont évoluer d'ici 1 à 2 ans ?
Oui, effectivement, nous observons une hausse des prix de l'énergie sur les marchés à terme. Depuis le début de l'année 2022, on a vu que les prix à terme de l'année 2023 augmentent et malheureusement restent stabilisés à 4 fois le niveau qu'ils avaient avant le début de la crise. Donc aujourd'hui, les marchés à terme nous disent que les prix élevés vont rester élevés pendant un certain temps. Alors évidemment, cette situation est difficile pour les consommateurs, pour les entreprises qui font face à cette hausse de prix de l'énergie dès lors qu'ils sortent de leur contrat, parce que la plupart des entreprises ont fixé les prix et ne sont pas immédiatement exposées à la hausse des prix. Mais ce que je voudrais dire, c'est que malheureusement, cette hausse des prix est également difficile pour les fournisseurs d'énergie, parce que nous avons fait face non seulement à une hausse de prix, mais à une hausse de la volatilité. Et cette volatilité coûte aux fournisseurs, parce que nous devons équilibrer et profiler notre portefeuille proche de l'échéance de livraison de l'électricité à nos clients. Et ces coûts de profilage du portefeuille ont explosé par rapport aux primes de risque, si vous voulez, que nous avons facturées dans nos contrats. Et donc, les contrats existants des fournisseurs d'énergie sont sous pression. La plupart d'entre eux, à mon avis, à perte. Et c'est cette situation qui a amené les fournisseurs à être d'ailleurs en difficulté ces derniers temps.
L'Europe s'est engagée à atteindre la neutralité climatique d'ici à 2050. Cette neutralité, elle passe ou elle passera essentiellement par quoi, selon vous ? Si vous deviez fixer un ordre de priorité dans les objectifs concrets pour y parvenir, quels sont-ils ?
Je pense que nous devons toutes et tous faire preuve de sobriété énergétique. C'est façon de parler, isoler la toiture, se déplacer de manière autant que possible avec les transports en commun, pour les déplacements courts, le vélo, pourquoi pas. Mais une fois qu'on a épuisé le potentiel de sobriété énergétique, il nous reste l'efficacité énergétique, c'est mettre des LED plutôt que des ampoules, qui consomment plus d'énergie. Nous avons fait ça à très grande échelle sur les axes structurants autoroutiers wallons, par exemple, pour réduire de 76% la consommation d'énergie, idem dans des hôpitaux, lorsqu'on change l'éclairage d'un hôpital. Donc, sobriété, efficacité énergétique, et ensuite, et je crois que c'est vraiment le cœur, c'est l'électrification. Et donc, pour réduire la consommation totale d'énergie, il faut d'abord réduire les hydrocarbures qu'on brûle dans les moteurs, dans les chaudières, et pour ça, il va falloir électrifier les usages, passer à la pompe à chaleur pour se chauffer, passer à des véhicules électriques, et cela va induire une très forte hausse de la demande en électricité.
Donc, si je vous suis, monsieur d'Allemagne, donc en 1, la sobriété énergétique, en 2, l'efficacité énergétique et en 3, l'électrification, le tout électrique. Vous pouvez développer un petit peu l'électrification, en quoi est-elle vraiment un peu la panacée ?
Effectivement, je crois que l'électrification est essentielle pour deux raisons principales. La première raison, c'est que l'électrification en tant que telle est un vecteur d'efficacité énergétique. Je m'explique, un moteur électrique a une efficacité qui est 3 fois plus élevé qu'un moteur thermique, donc une voiture à essence, une voiture diesel, il y a beaucoup d'énergie perdue sous forme de chaleur, c'est un moteur qui chauffe, tandis que le véhicule électrique est beaucoup plus efficace, 3 fois plus efficace, ce qui veut dire que lorsqu'on électrifie un véhicule, eh bien on peut réduire par 3 la consommation totale d'énergie pour se déplacer. De la même manière, une pompe à chaleur est beaucoup plus efficace pour chauffer une maison qu'une chaudière au mazout ou même qu'une chaudière à gaz. Et dans de bonnes conditions d'utilisation et d'installation, une pompe à chaleur peut avoir un coefficient de performance, c'est-à-dire un rendement de l'ordre de 400%, et être donc 4 fois plus efficace, c'est-à-dire consommer 4 fois moins d'énergie totale qu'une chaudière traditionnelle au mazout ou au gaz.
Dans un communiqué de juillet 2021, la FEBEG, la Fédération belge des entreprises électriques et gazières, dont vous assurez la présidence, s'inquiète des procédures complexes et très lourdes pour l'obtention des permis de bâtir et des permis environnementaux requis pour les nouvelles unités de production d'électricité. C'est en fait un fameux frein et pour le développement du secteur et aussi pour l'accélération de la transition énergétique.
Effectivement, qui dit transition énergétique dit électrification, comme je viens de l'expliquer. Et ce qui veut dire que demain, pour atteindre la neutralité carbone, nous devrons en Belgique produire, selon le rapport net zéro d'Elia, plusieurs fois plus d'électricité que nous n'en produisons aujourd'hui. Et la question est comment, avec quel mix électrique ? Mais pour construire des nouveaux actifs de production d'électricité, il faut obtenir des permis. Et aujourd'hui, je suis très inquiet face à la difficulté d'obtenir des permis. Et je pense qu'il serait vraiment très important qu'on réorganise notre manière de fonctionner en Belgique, parce que sans permis, eh bien, nous ne pourrons pas construire de nouvelles unités de production d'électricité, qu'elles soient renouvelables ou autres. Et je pense qu'un mix électrique diversifié est souhaitable pour qu'on dispose de suffisamment d'électricité au bon moment, au meilleur coût et avec les émissions de CO2 les plus faibles.
Et où est-ce que cela coince ?
Aujourd'hui, de très nombreux permis éoliens, par exemple, sont en recours au Conseil d'État. Je vois qu'il y a toujours des très très longues discussions par rapport aux lignes de transport pour acheminer l'électricité des parcs éoliens offshore vers le Hainaut ou en Flandre. Et donc, idem pour finalement les centrales à gaz qui ont des difficultés à obtenir des permis. Donc, j'ai envie de dire aujourd'hui, tous les moyens de production d'électricité font face à des grandes difficultés d'obtention de permis. Et ce qui menace en réalité la transition énergétique et même la sécurité d'approvisionnement du pays.
Mmh. Il est beaucoup question aujourd'hui de mix énergétique, c'est-à-dire de modes de production d'énergie qui se complètent mutuellement comme solution pour atteindre à terme la neutralité carbone. Quel est pour vous le mix le plus équilibré pour le futur ?
Alors tout d'abord, il est important de bien comprendre le mix énergétique actuel. Et donc si on regarde la Belgique aujourd'hui, elle consomme environ 460 TWh d'énergie. Et 80% de cela, ce sont des hydrocarbures qui sont brûlés pour faire fonctionner des véhicules, pour faire chauffer vos maisons. Donc c'est de l'essence et du diesel utilisés dans les voitures, du mazout et du gaz dans les chaudières et essentiellement du pétrole et du gaz pour faire tourner l'industrie. Et ça, c'est 80% de l'énergie consommée dans notre pays. L'électricité, elle, ne représente que 18% du mix énergétique. Et donc, il faut faire attention de ne pas confondre mix énergétique, qui est le total, et mix électrique. Et donc, en réalité, lorsqu'on veut atteindre la neutralité carbone, La priorité, c'est d'éradiquer les 80% d'hydrocarbures, donc d'essence, de mazout, de gaz, qui sont brûlés directement et avec des niveaux d'efficacité énergétique très faibles dans des applications telles que des chaudières ou des véhicules thermiques. Et si on veut, si on ne veut plus brûler cela parce qu'il faut atteindre la neutralité carbone, ce que je souhaite aussi, alors demain, il faudra beaucoup plus d'électricité. Et donc la question devient, comment pouvons-nous produire et consommer demain plusieurs fois plus d'électricité qu'aujourd'hui? Et la question qui se pose, c'est quel est le mix électrique idéal? Et moi, je pense personnellement que pour produire demain deux ou trois fois plus d'électricité qu'aujourd'hui, de manière à atteindre la neutralité carbone, il est utile d'avoir un mix électrique diversifié avec une partie d'électricité qui provient d'actifs qu'on peut commander, dispatchables, par exemple des centrales nucléaires ou des centrales à gaz, et tout le renouvelable qu'on pourra développer. Mais donc, pour assurer la transition énergétique, les éléments du mix électrique, qui sont les centrales nucléaires, les centrales à gaz et le renouvelable, sont plutôt nos alliés. Les éléments que nous devons au plus tôt arrêter, c'est la combustion directe d'énergie fossile dans les chaudières, dans les voitures et dans les processus industriels.
Luminus est producteur d'énergie, fournisseur d'énergie et de services énergétiques. Quelle est la répartition de ces différents pans d'activité et comment sont-ils appelés à se développer l'un par rapport à l'autre? Je songe ici à l'acquisition récente par Luminus de Citelum Belgique, spécialisée dans les services aux collectivités publiques, notamment en éclairage public, on l'a déjà un petit peu évoqué. C'est, j'imagine, un choix stratégique.
Alors, je voudrais tout d'abord vous dire un mot sur la raison d'être de Luminus, qui mobilise tous nos collaborateurs, toutes nos équipes. Notre raison d'être chez Luminus, c'est de construire un avenir énergétique neutre en CO2, conciliant préservation de la planète, le bien-être humain, le développement économique, et cela grâce à l'électricité. Je viens d'expliquer pourquoi c'est si important d'électrifier, mais aussi à des solutions d'efficacité énergétique innovantes. Et donc, pour mettre en œuvre cette raison d'être, nous nous basons sur trois métiers, sur trois core business. La production d'électricité, nous avons investi près d'un milliard d'euros dans le renouvelable ces 10 dernières années. Nous sommes aujourd'hui leaders en éolien offshore, mais aussi en production hydroélectrique, par exemple. Nous sommes fournisseurs d'électricité et de gaz. Et enfin, il y a 5-6 ans, nous avons développé un nouveau métier qui est aujourd'hui très important pour nous et pour nos clients. C'est un métier de service d'efficacité énergétique par lequel nous aidons nos clients à réduire, mais aussi à sécuriser leur approvisionnement en énergie. Et c'est dans ce domaine-là que nous employons aujourd'hui le plus de personnes. On parle de plus de 1500 personnes. On était à zéro il y a 5-6 ans et le développement est très fort. Donc le potentiel de service pour réduire la consommation d'énergie, c'est aujourd'hui la priorité non seulement pour Luminus, mais aussi pour nos clients. Et nous connaissons un fort développement dans ce domaine.
En Belgique, 74% de la consommation d'énergie et 70% des émissions de gaz à effet de serre proviennent de l'activité des entreprises, tous secteurs confondus. Qu'est-ce qu'une entreprise comme Luminus offre concrètement comme service pour permettre aux entreprises non seulement de mieux gérer leur consommation, mais aussi de réduire leur empreinte carbone? On a déjà un tout petit peu abordé ce point-là.
Effectivement, nous en avons fait notre raison d'être chez Luminus il y a 6 ans environ. Nous avons formulé comme l'envie, la mobilisation de construire un avenir énergétique neutre en CO2, et cela passe tout d'abord par la réduction de la consommation d'énergie. Et donc, chez un client, dans une entreprise aujourd'hui, nous pouvons commencer par un diagnostic, des émissions de CO2, ensuite le design, la réflexion d'une offre pour réduire la consommation d'énergie, aussi pour autoproduire tout ce que le client peut autoproduire, c'est-à-dire installer une éolienne sur un site industriel, sur le parking d'un magasin, sur, un site, installer des panneaux solaires, installer une unité de cogénération. Ce sont autant d'activités qu'aujourd'hui nous pouvons déployer chez Luminus avec nos propres équipes. Ensuite, pendant, toute la durée de vie de ces actifs, nous sommes également à même d'assurer l'exploitation et la maintenance avec des hauts niveaux de sécurité et de performance et de disponibilité des actifs. Donc vraiment, depuis l'analyse. Jusqu'au développement, la construction et l'exploitation et maintenance pendant toute la durée de vie des actifs.
Au quotidien L'Écho, vous avez confié « La crise climatique menace de devenir une crise humanitaire. L'urgence climatique nécessite une réponse à l'échelle mondiale qui soit de la même ampleur que la réponse qu'on a pu donner à la pandémie de Covid-19. Il faut une mobilisation mondiale. » À l'heure où je vous parle, vous la voyez comment, cette mobilisation mondiale? Est-ce que c'est un vœu pieux ou est-ce que vous y voyez une réalité émergente?
Alors, je veux être optimiste et aujourd'hui, nous avons les moyens de faire la différence. En fait, ce qu'il est important, c'est d'avoir une courbe de réduction des émissions de CO2 vers zéro le plus rapidement possible, 2050 au plus tard. Et en face, eh bien, nous devrons avoir une courbe d'électrification très importante parce que la priorité, c'est de réduire la combustion d'hydrocarbures dans les véhicules, c'est-à-dire l'essence, le diesel, le gaz, qui sont brûlés pour faire rouler des véhicules, pour chauffer des bâtiments, pour faire fonctionner l'industrie. Et 80% de l'énergie consommée dans notre pays, en réalité, ce sont ces hydrocarbures qui sont brûlés directement dans ces trois types de processus. Et donc, il est important aujourd'hui de mettre en œuvre, en pratique, une stratégie qui vise à réduire cela drastiquement, rapidement vers zéro, ce qui passera par une électrification, mais dès lors, une très forte augmentation de la production d'électricité. Et donc aujourd'hui, si nous savons ce qu'il faut faire, c'est aussi ce que dit l'Agence internationale de l'énergie, ce que disent les différentes instances internationales, encore faut-il le mettre en œuvre avec un plan coordonné, je crois, entre l'État fédéral, par exemple, et les régions et les communes, de manière à obtenir les permis pour pouvoir construire ces actifs qui nous permettront demain de produire l'électricité nécessaire à décarboner.
On revient un petit peu aussi à la difficulté qu'on évoquait, parce que j'allais vous demander, est-ce que vous êtes confiant en définitive?
Alors aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Nous avons gagné quelques grands contrats de performance énergétique avec des pools de bâtiments, des ensembles de bâtiments. J'ai visité dernièrement l'école polytechnique de Huy, où Luminus Solutions a déployé des solutions d'isolation, de changer les vitrages, changer l'éclairage, le chauffage, la circulation, installation de panneaux solaires. Une fois qu'on a mis tout ça en œuvre, on a pu réduire la consommation de 52%. Et donc, c'est une grande source de fierté. Donc, je dirais aujourd'hui que si nous déployons les moyens que nous connaissons, que nous utilisons, qui existent aujourd'hui, eh bien, on peut réduire la consommation, souvent, jusqu'à 50%. Et nous devons également, en même temps, investir dans l'innovation pour que, lorsqu'on aura réduit ces 50%, nous soyons prêts avec les solutions suivantes à l'échelle industrielle pour aller décarboner les secteurs qui sont plus difficiles à décarboner.
Justement, en parlant de 50%, le dernier rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, rapport qui est paru en mai dernier, considère que les trois prochaines années seront cruciales, notamment pour la mise en œuvre de processus industriels décarbonés, ce qui laisse peu de temps. Mais il confirme aussi l'existence de pistes intéressantes pour réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre. Vous partagez l'optimisme du GIEC dans son
voilà,
rapport?
Voilà, il faut croire que je sentais votre question arriver, vu qu'effectivement, lorsque nous déployons aujourd'hui les solutions qui existent, on peut réduire de 50% les émissions de CO2. C'est ce que Bill Gates explique également dans son livre sur le climat, qui est très bien d'ailleurs et que je vous encourage
vous
à lire.
Les...
Et donc, il explique que si on déploie ce qu'on connaît aujourd'hui, on peut réduire de 50%, mais qu'en même temps, il faut investir dans l'innovation pour aller, décarboner les secteurs et des usages plus difficiles à décarboner, par exemple dans certaines industries où il y a encore plus d'efforts de recherche et de développement qui doivent être faits pour trouver des solutions.
Et qu'en est-il de l'efficacité énergétique de nos bâtiments, les bâtiments dans leur ensemble, en ce compris les entreprises? Est-ce qu'il y a de ce côté une marge d'optimisation significative, c'est-à-dire suffisamment significative pour avoir un effet de levier dans la transition énergétique?
Elle est très importante. Je me réjouis de voir que les autorités publiques prennent des mesures dans le cadre notamment des plans de relance pour créer des grands ensembles de bâtiments qui sont alors mis sur le marché dans le cadre de contrats de performance énergétique. Je pense que c'est la bonne manière pour traiter à grande échelle et pour pouvoir vraiment faire levier sur des équipes d'ingénierie, mais aussi mettre en place des mécanismes de financement les plus efficaces possibles pour rénover et réduire à grande échelle la consommation d'énergie dans les bâtiments. Ensuite, il y a également tous les bâtiments résidentiels dont le taux de rénovation aujourd'hui est très largement insuffisant. On rénove environ 1% par an et tous les plans européens nous indiquent qu'il faudrait plutôt tripler ce taux de rénovation énergétique des bâtiments. Et donc, j'ai vu dernièrement que la région bruxelloise avait pris des mesures pour augmenter très fortement la vitesse de rénovation énergétique des bâtiments. Ce sont des mesures qui sont importantes et urgentes à prendre.
Grégoire Dalmagne, le mode de fonctionnement du marché de l'énergie a bien changé en deux décennies. Il y a la production, le transport, la distribution, la vente. Toutes ces activités ont été scindées, faisant aussi apparaître de nouveaux acteurs. Le client final est aussi, au fond, devenu un acteur. Il ne participe pas forcément à la production d'énergie, mais il est quand même partie prenante et participe beaucoup plus que par le passé à la gestion de sa propre consommation. Et le fournisseur d'aujourd'hui ne fait pas que fournir, sa vocation est aussi autre, elle va au-delà. C'est vraiment un grand changement de paradigme, ce nouveau marché de l'énergie.
Effectivement, et on peut s'en réjouir, c'est important d'accélérer la transition énergétique vers une, en toute grande priorité, une réduction de la consommation d'énergie. Ça, c'est la priorité numéro un. C'est la seule action qui coche toutes les cases pour réduire le prix, mais réduire les émissions de CO2 de manière la plus pérenne possible. Et donc, on peut se réjouir qu'un certain nombre d'acteurs rentrent dans le marché pour proposer ces services. Chez Luminus, c'est devenu notre core business, accompagner nos clients pour consommer moins d'énergie et déployer tous nos savoir-faire pour réduire le plus vite possible la consommation. Donc, c'est vrai que ça peut, il y a 10 ans, allez, on a commencé à expliquer cela il y a peut-être 7-8 ans. Et à l'époque, on nous regardait un peu de travers en disant comment est-ce qu'un fournisseur d'énergie peut aider à réduire la consommation d'énergie. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est convaincu que c'est un pari gagnant parce que c'est la seule manière pour nous de faire gagner nos clients. Nous ne pouvons pas, je dirais, les marges que nous gagnons sur l'énergie sont infimes, extrêmement fines, et donc nous ne pouvons pas réduire nos prix, malheureusement, sur l'énergie, et les prix sont dictés par les cours sur les marchés internationaux. Par contre, nous pouvons sérieusement aider nos clients en les aidant à réduire, une bonne fois pour toutes, leur consommation d'énergie. Et donc c'est là que nous voulons faire la différence.
Producteurs, transporteurs, vendeurs, clients finaux, les intervenants sont multiples sur un marché quand même très complexe et très tendu. Et comment définiriez-vous cette nouvelle concurrence en d'autres termes ? Est-ce qu'elle fonctionne ?
Alors oui, la concurrence est extrêmement active. En Belgique, en l'occurrence, certainement sur le marché résidentiel, on a le marché le plus concurrentiel d'Europe, avec un taux de rotation de clients qui est très élevé. Donc, on peut certainement dire qu'on a un marché très concurrentiel et surtout les nouveaux services, on voit arriver, je dirais, des sociétés innovantes dans chaque domaine d'expertise. Donc, ça, c'est également, je dirais, positif pour l'offre de services et l'innovation. Il faut faire attention que si différents acteurs rentrent sur le marché de la fourniture d'énergie, que tous ces acteurs soient soumis aux mêmes obligations pour s'assurer qu'on ait un level playing field en termes de concurrence.
Ce qui est le cas ou ce qui...
Je dirais que ce sont des sujets auxquels il faut veiller dès lors qu'on voit de nouveaux types d'acteurs arriver sur le marché.
Quelque chose qu'il faut ajuster régulièrement.
Voilà, il faut s'assurer que le business model reste, je dirais, positif pour tous les acteurs.
Mmh. Et si vous deviez justement résumer en quelques points ce qui est essentiel au bon fonctionnement du marché de l'énergie, tant pour attirer des investisseurs potentiels que pour en faire bénéficier les consommateurs, quel serait-il ?
Alors, moi, je pense qu'on est quand même typiquement sur un marché des temps longs. Donc, nous avons une vision à long terme dans le domaine de l'énergie. Nous construisons des usines pour des décennies. Et donc, ce qui est très, très important, c'est la sécurité du cadre dans lequel nous opérons, la stabilité des modèles et de la régulation. Lorsque nous devons construire des actifs, que les procédures pour obtenir les permis soient simplifiées pour que nous puissions en pratique réaliser les investissements dont nous avons besoin. Donc ça, ce sont vraiment
les éléments clés. C'est le cadre législatif ou pas uniquement le cadre législatif ?
Aujourd'hui, le seul obstacle pour développer plus d'énergie renouvelable, ce sont des questions de permis. Donc ça, c'est la difficulté et il faut bien dire que les processus sont extrêmement longs. On est à 5 ou 10 ans. Les délais de recours au Conseil d'État sont très longs et nous avons au Conseil d'État des quantités considérables de projets qui sont en attente de traitement, et cela réduit la vitesse de la transition énergétique à laquelle nous aspirons et dont nous avons besoin.
Décentralisation de la production d'énergie vers les entreprises et les particuliers, digitalisation accrue, nouvelles technologies liées à la transition énergétique, tout cela crée de nouveaux besoins en termes de ressources humaines. Il y a de nouveaux profils qui émergent, et parallèlement à cela, beaucoup d'entreprises belges sont aujourd'hui confrontées au départ des baby-boomers, c'est-à-dire des gens qui ont une certaine expertise et qui quittent l'entreprise. Comment le secteur d'énergie prépare-t-il la relève ?
Alors, aujourd'hui, ce qui est formidable, c'est que le secteur de l'énergie est au cœur de la transition énergétique, et c'est un domaine qui est vraiment essentiel pour permettre justement cette décarbonation de la société, réduire les émissions de CO2, créer ce monde auquel nous aspirons sans émissions de CO2. Et donc, on voit aujourd'hui que ça agit comme un aimant sur les talents. Et donc, nous voyons de nombreux jeunes qualifiés qui ont envie de nous rejoindre, et nous recrutons des jeunes ingénieurs et qui sortent des meilleures écoles et qui sont très motivés à travailler sur les projets que nous proposons. Ceci étant dit, on fait également face à des pénuries de main-d'œuvre dans des domaines très importants, des fonctions techniques, des fonctions je dirais dans le domaine de l'électromécanique et toutes sortes de fonctions techniques qui sont en pénurie et qui freinent en réalité la croissance et la capacité d'accélérer la transition énergétique. Donc on a vraiment un enjeu non seulement d'attirer des talents vers les fonctions techniques, mais ça commence assez tôt, hein. Donc dans les écoles, on voit bien que on n'attire plus assez de personnes vers les écoles techniques, par exemple, et différentes de nos filiales, comme par exemple ATS en Flandre, à Merelbeek, je dirais, interagit avec les écoles dans les environs de ces sièges d'exploitation pour donner, je dirais, des formations et pour attirer finalement les jeunes vers ces métiers qui ont plein d'avenir, ces métiers techniques. Et donc, nous travaillons avec les écoles pour essayer de rendre ces formations plus attractives. Et puis aussi en proposant des stages pour que les jeunes puissent faire connaissance avec notre entreprise et avec les métiers que nous avons à offrir.
Vous faites partie, Grégoire Delmagne, avec une trentaine de CEO et administrateurs belges du collectif 2030, qui s'est créé il y a un an et demi à peu près. Comment est née cette initiative et qu'est-ce qui vous unit dans cette démarche collective ?
Ces quelques dizaines de CEO ont vraiment voulu se réunir sous la bannière du développement durable, animés par l'urgence de la transition vers un monde plus durable, vers un monde neutre, vers une économie régénérative. Et je suis effectivement fier d'en faire partie. Alors je crois que si, en tant que citoyen, nous avons toutes et tous, évidemment, un rôle à jouer dans la transition, je suis persuadé que l'entreprise, en tant que telle, dispose, elle, de moyens industriels de faire la différence. Et compte tenu des challenges auxquels nous sommes exposés, je trouve ça formidable, en tant que chef d'entreprise, de pouvoir mettre en œuvre des leviers beaucoup plus importants. C'est des leviers qui peuvent se traduire en milliards d'euros d'investissement, avec des compétences techniques, en pouvant mobiliser les meilleures équipes d'un point de vue expertise technique, en travaillant ensemble avec d'autres sociétés innovantes. Et donc, les entreprises peuvent réellement être une force pour le bien, j'en suis personnellement convaincu, et œuvrer à cette transition vers le monde auquel nous aspirons. Et donc, c'est important ensuite, entre dirigeants, de pouvoir se réunir pour échanger les meilleures pratiques, et pour pouvoir, je dirais, s'enrichir des expériences des uns et des autres, aussi expliquer nos échecs, nos difficultés, parce que c'est aussi comme ça qu'on apprend les uns des autres et qu'on peut, en faisant preuve d'humilité, d'ouverture, de partage, réellement contribuer à la mise en œuvre d'un monde plus durable.
Luminus est un acteur majeur dans l'éolien, on l'a déjà évoqué, production d'électricité est souvent au cœur de débats pour ses effets sur le climat et l'environnement en général. On pointe pour l'éolien terrestre l'impact sur la faune et en particulier les oiseaux et les chauves-souris. Luminus met, depuis quelques années déjà, en œuvre des solutions pour contrer ces impacts négatifs. Vous nous en dites davantage ?
Ah, merci, c'est une belle question. Moi, je suis tout d'abord un amoureux de la nature. Depuis mon plus jeune âge, j'aime observer les oiseaux. J'ai une paire de jumelles depuis l'âge de 8 ans. Avec mon premier salaire, j'ai acheté une excellente paire de jumelles que j'ai toujours. Et donc, ça, ce sont des questions qui me tiennent très à cœur. Et donc, je crois que la réduction des gaz à effet de serre et la lutte contre le réchauffement climatique est indissociable de la protection de la biodiversité. Que ce soit les oiseaux, les poissons dans la Meuse, les plantes, la biodiversité sous toutes ses formes. Et donc, dans le développement de tous nos projets, nous avons à cœur de réaliser en parallèle vraiment des études approfondies pour s'assurer que nous contribuons positivement à la biodiversité, avec l'envie à la fois d'éviter, de réduire et enfin de compenser les effets de nos activités, non seulement sur le climat, mais aussi sur la biodiversité. Je vous donne un exemple. En ce qui concerne l'éolien, pour chaque éolienne installée, en moyenne, nous installons en Wallonie, par exemple, des hectares de zones de compensation qui permettent de recréer des zones dans lesquelles on a une succession de zones enherbées et de zones avec des champs de céréales qu'on ne récolte pas, ce qui crée des zones de refuge pour certaines espèces d'oiseaux qui, il faut bien dire, dans certaines régions du pays, un peu disparues au passage bien avant que les éoliennes n'arrivent, pour des questions d'agriculture intensive. Mais donc, ces zones deviennent réellement des petits paradis de biodiversité où les oiseaux trouvent le gîte dans les hautes herbes et le couvert dans les champs de céréales non récoltés et permettent de réintroduire des espèces qu'on n'avait pas vues depuis longtemps en Wallonie, comme par exemple le hibou des marais. Et Luminus exploite également cette centrale hydroélectrique sur la Meuse. Et là aussi, bien entendu, nous voulons contribuer au bien-être des poissons, entre autres les anguilles et les saumons. Et donc, nous avons mis en place un très vaste projet de recherche qui s'appelle Life for Fish, avec l'aide de l'Union européenne, mais aussi de plusieurs universités et de bureaux spécialisés pour pouvoir, étudier les habitudes de migration de ces poissons et voir comment tous les acteurs et tous les utilisateurs de la rivière, dont nous-mêmes, avec nos ouvrages hydroélectriques, peuvent contribuer à assurer finalement le bien-être de ces espèces dans la rivière. Avec des résultats concluants, on a eu l'occasion d'en parler dernièrement avec tous les partenaires de cette étude, nous pouvons réellement mettre en œuvre des solutions qui font la différence.
Grégoire Dalmagne, si je vous dis Luminus aime les arbres, vous tombez de haut ou vous me racontez ce qui lie Luminus à la création de forêts ?
Alors, depuis plusieurs années, nous avons un partenariat avec la fondation Jane Goodall. Nous avons eu l'immense plaisir d'accueillir cette très très grande personnalité chez Luminus à plusieurs reprises. Et nous avons été séduits par Jane Goodall et par son action pour recréer des espaces pour le développement au départ des chimpanzés. Mm-hmm. Mais entre-temps, Jane Goodall a des fondations dans la plupart des pays du monde, je crois, et nous sommes heureux avec elle, ces trois dernières années, d'avoir contribué à planter 3,6 millions d'arbres, dont la majorité d'entre eux en Afrique, pour recréer des couloirs, pour connecter des zones, pour recréer l'habitat des chimpanzés. Et ces projets sont faits avec l'implication des populations locales et dans les meilleurs standards de développement. Et nous avons également planté chaque année plusieurs dizaines de milliers d'arbres en Belgique avec nos collaborateurs, avec les différentes parties prenantes dans les différentes régions dans lesquelles nous opérons dans le pays. Donc, encore une fois, c'est un témoignage de notre affection et de notre attachement pour la biodiversité. Et nous sommes heureux, et je crois que tous nos collaborateurs sont heureux de planter des arbres chaque année. On aime se retrouver d'habitude sous la pluie au mois de février pour planter quelques milliers d'arbres tous ensemble. Et nous avons bien l'intention de continuer. Et je me réjouis de voir que de nombreuses entreprises font ça dans le monde. Et je crois que tous ensemble, on a vraiment le potentiel, je l'espère, de reboiser la planète suffisamment pour faire la différence.
Ce sont de beaux projets, en tout cas. Grégoire Dalmagne, encore une dernière question. Vous êtes donc depuis un peu plus d'un an président de la FEBEC, la Fédération, comme j'ai dit, la Fédération Belge des Entreprises Électriques et Gazières, pour la deuxième fois. Vous aviez déjà assumé cette fonction entre 2015 et 2018. Quelle est, dans les grandes lignes, votre nouvelle feuille de route à la tête de cette organisation professionnelle ?
Alors, écoutez, je crois qu'on est dans une période qui est quand même extrêmement particulière et à certains égards préoccupante. Pensons à la crise climatique, pensons aujourd'hui à la crise des prix de l'énergie et à la guerre en Europe. Et en fait, quand on réfléchit à ces trois grande crise, en termes de solutions, on arrive assez vite à la conclusion qu'il faut réduire la consommation totale d'énergie fossile. Et donc, inscrire l'industrie que je préside dans cette transition vers une réduction drastique des gaz à effet de serre et une réduction drastique de la consommation totale d'énergie fossile, c'est notre priorité pour atteindre la neutralité carbone. Et donc, évidemment, comme l'énergie est responsable de la majorité des émissions de gaz à effet de serre, nous souhaitons également faire partie de la solution et d'être industriellement à la source de la solution pour les déployer à l'échelle industrielle qui est nécessaire. Donc, effectivement, à la Fédération belge des entreprises d'électricité et de gaz, nous souhaitons contribuer à cette transition en construisant l'infrastructure énergétique du futur qui permettra d'atteindre la neutralité carbone.
Grégoire Delmagne, un tout grand merci.
Merci à vous.
C'est déjà la fin de ce podcast. Notez dès à présent dans votre agenda les prochains podcasts Let's Talk de la Fédération des entreprises de Belgique. Rejoignez-nous chaque dernier jeudi du mois et continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre site internet feb.be.